Sur le XVIIe siècle, ce qui est assez stupéfiant, alors on l'a déjà vu dans les siècles précédents, mais c'est quand même la diversité des pratiques qui s'explique par la diversité, voire la religion, le schisme religieux, fait que ça éclate. Donc il y a vraiment un rapport au divin et à l'image qui change, avec l'iconoclasme protestant, ça c'est clair. Et l'iconoclasme protestant déclenche soit une réaction d'adaptation, par exemple chez Delatour ou Caravage, il y a cette idée que les protestants n'ont pas tort de dénoncer les excès du catholicisme et de la peinture et de l'art baroque catholique. Donc quelqu'un comme Delatour ou Caravage vont faire des peintures qui seraient presque acceptables par les protestants. Quand on voit par exemple, tiens, puisque j'y suis, je fais une petite révision de ça, quand on voit par exemple cette éducation de Marie, en fait, l'idée c'est ça, c'est Marie apprenant à lire. Marie, mère de Jésus, qui apprend à lire avec sa mère Anne. C'est tout à fait dans l'esprit, on va dire, protestant, bien que ce soit une peinture catholique, puisqu'il y a l'idée d'abord que on retrouve les personnages sacrés d'origine. Les protestants critiquaient le culte des saints, la multitude des saints. Critiquaient la séduction par une peinture avec des habits, des choses comme ça. Là, vous avez une sorte d'austérité, donc quelque chose qui n'est pas en train de séduire, et même, vous avez la mélancolie incroyable de Delatour. Alors, il faut savoir que Delatour, il est lorrain. Je fais une transition, parce que tout à l'heure, on va voir aussi des lorrains. Delatour est lorrain, et ils sont proches aussi des pays à forte idée protestante. Et donc, cette idée chez Delatour, c'est qu'en fait, ce qu'on voit n'a pas de valeur. Ce qu'on voit n'a pas de valeur, parce que la lumière, elle disparaît. La lumière, c'est pas Dieu, c'est un éclairage provisoire de la vie sur Terre. Et donc, la peinture de Delatour, elle est presque acceptable par les élites protestantes qui critiquaient la séduction, la joliesse, les morceaux de bravoure, la séduction aussi des habits, des couleurs, la richesse. Là, on est dans un domaine de pauvreté, etc. Et on est dans une simplicité, dans un dépouillement total. Cette espèce d'iconoclasme, et chercher de la tour, presque toujours, vous avez cette idée que ce que l'on voit, c'est vraiment en attendant la mort, mais la pénombre chez Delatour, c'est positif, la pénombre, c'est Dieu. Et en fait, on est dans l'attente de Dieu, de retourner à Dieu. Je vous en prie, je fais une petite transition, parce que je sais que là, les horaires sont un peu difficiles. Donc, le XVIIe siècle voit des réactions. Alors, on verra tout à l'heure les plafonds peints baroques, qui eux sont l'excès inverse. Vous allez avoir des catholiques qui vont réagir dans l'excès de différence. Par exemple, justement, pourquoi j'ai ça ? C'est pas ça. La mer. Donc, Jordaens, Rubens, eux sont des flamands catholiques. Parce que vous avez les flamands qui vont devenir protestants, hollandais, etc. Vermeer, donc il n'y a plus de peinture religieuse. Et vous avez des Flandres catholiques, qui vont rester catholiques, et qui, elles, vont jouer au contraire sur une sorte d'excès, dans tous les sens du terme, puisqu'il y a cette idée de profiter. S'il y a un espace, si on doute du monde, si on doute de beaucoup de choses, eh bien, on se rassure, par exemple, par l'agitation, par la nourriture, par les biens de ce monde, etc. Et quelqu'un comme Jordaens, effectivement, est totalement dans l'excès. Donc vous avez d'un côté le dépouillement de Delatour, et de l'autre, les excès de Jordaens, on verra sur le corps. D'un côté, vous avez un corps qui semble être de cire, qui disparaît, celui de Delatour, qui est presque translucide, donc il n'a pas de chair, en fait. Et vous avez au contraire Carnevale, la chair vaut quelque chose, le roi de Carnaval, avec Jordaens, qui sont exactement contemporains et pas très loin. Alors je vais développer un petit peu sur le roi de Carnaval, mais si vous voulez, et entre deux, vous avez des gens comme Velázquez ou Vermeer, qui essaient d'établir un équilibre. C'est pour ça qu'on peut parler d'artistes classiques. Donc si vous voulez, entre le baroque un petit peu mélancolique, le clair-obscur, le baroque lyrique de l'excès, vous avez les classiques, c'est ceux qui vont essayer d'établir un rapport harmonieux, si possible, entre la terre et le ciel, le corps, l'esprit, le proche, le loin, etc. Vous voyez, c'est vraiment assez simple. Et puis, vous avez aussi l'autre élément au XVIIe siècle qui est important, c'est la commande. hein, puisqu'on a vu en Hollande, c'est plus ni moins une commande de prince ou d'église, c'est plus une commande privée. Hein, donc là, vous avez aussi une liberté qui fait qu'on n'est plus obligé. On avait déjà commencé à voir ça avec Bruegel, hein, et Bruegel, c'est juste 100 ans avant. Hein, donc, vous voyez, Bruegel est déjà aussi un peintre profane, laïque, philosophe. Donc vous avez aussi une peinture qui s'échappe un petit peu aussi des doctrines, des commandes, des obligations ou de la pression du public. Hein, cette liberté. Alors, quand on voit Jordaens, vous voyez qu'ici, tout est rempli délibérément. Le corps, l'espace de la peinture est saturé. Alors vous avez vu, c'est assez drôle par rapport à Vermeer, c'est qu'on a à peu près le même dispositif au niveau de l'espace. Mais alors là, au lieu de jouer sur le vide, hein, et que ce vide n'est pas vide en fait, il est plein de lumière, il est plein d'idées, là c'est le corps qui remplit tout. Et le corps qui remplit tout, il faut remplir aussi le corps. Et le corps il remplit, mais en plus de temps, c'est un lieu de passage le corps. Il se remplit et il se vide. Il déborde, le sein déborde, les cris et les hurlements, alors que chez Vermeer c'est là le calme, et chez, là on a pas de la bouche entrouverte, et chez Delatour c'est au contraire muti, les bouches sont fermées, le corps est translucide. Là au contraire, c'est l'idée que le corps est surtout de lieu de passage qui se gonfle et qui se vide. Hein, c'est lui qui est traversé par des énergies, juste dans le grotesque, hein, y compris celui-ci qui vomit, hein, ceux qui s'embrassent, ceux qui fument la pipe, donc qui se remplissent de fumée et qui la recrachent. Vous avez aussi le vin qui remplit, etc. Vous avez ce qu'on appelle le roi des fèves. Alors là, c'est un peu grossier peut-être, mais les fèves, c'est un animal, c'est un aliment dit venteux, donc qui gonfle la panse, hein, parce que c'est le roi de carnaval, et carnaval, c'est la chair qui vaut quelque chose, donc carnaval, etc. Donc c'est une sorte délibérément de fuite en avant autour du corps. Hein. Et là, c'est typique. Et vous avez y compris ce qu'on le voit ici. L'instrument de musique privilégié, ce sera presque caricatural. Alors là, vous avez vu, c'est pas, il n'a pas fait ça une fois, hein, il a fait ça 10 fois. Hein, le thème du roi, alors c'est le roi bois ou le roi de carnaval. Il y a aussi une dimension, c'est la dimension populaire. Parce que là, effectivement, le peuple est en fait le corps social, tout simplement. C'est le corps, en fait, le peuple. Hein, il y a d'un côté, alors on avait vu avec Velázquez, puisqu'il y avait le corps du peuple, mais au travail. Et puis vous aviez l'esprit un petit peu du divin ou du royal, loin. Il y avait une sorte de rapport, fascination entre les deux. Là, vous avez le corps social et le corps physique, le corps des paysans, le corps des... etc., qui est vraiment du côté de la chair, mais de la vie, hein, et qui a besoin de rien d'autre. Donc vous avez une affirmation assez étonnante. Alors évidemment, la cornemuse, c'est vraiment la métaphore de la panse, alors c'est une panse, qui se remplit d'air et qui fait en plus, et qui remplit aussi l'air par le bruit. On a ici, on sait très bien ce que c'est qu'une cornemuse ou un bignou, et l'espace, ça remplit de manière assez radicale. Donc cette idée de saturer, vous n'avez pas un endroit de vide. Mais alors en même temps, il y a aussi quelque chose comme ce qui est la boulimie, c'est que l'air de rien, ça traduit une certaine angoisse. C'est l'angoisse du vide. Vraiment, là, c'est la peur du vide. On est au XVIIe siècle où on se pose des questions sur le cosmos. Donc, vous voyez, c'est pas du tout absurde de relier ça. Alors le corps, il est dans tous ses états, de l'enfance à la vieillesse, hein, y compris dans ses fonctions organiques urinées. Hein, le bébé ici, je crois qu'il urine, vous allez voir aussi là, tout à l'heure, il vomissait. Vous avez aussi la mère qui donne même à boire à son enfant. Vous avez celui-ci, le sein qui déborde de la chemise. Vous avez le fou ici, le fou du roi. C'est aussi l'idée de l'hubris du désordre. Hein. Alors chez Jordaens, ça passe aussi par, il traduit de la même manière les mythes grecs, alors Cérès, Perséphone, etc., les déesses des moissons, déesses de toutes ces choses-là, toutes la nourriture et la générosité de la nature est ici représentée avec des corps qui sont massifs, qui sont luisants, qui sont souvent passifs, hein, qui sont remplis. La différence, c'est que Jordaens, ça sera des corps agités. Pour remplir l'espace, il y a plusieurs manières. Soit on se gonfle, soit on bouge très vite. C'est un truc tout bête, mais c'est... Bon, ben... Parce que ce qui danse dans le rapport à l'espace, c'est vrai que conquérir l'espace, ça va être aussi... soit le mouvement, ce sera plutôt Rubens, mais Jordaens, c'est quelque chose, une sorte de passivité, on grossit, alors, comme les fruits, comme les feuilles de chou, alors, cette espèce de générosité aussi de la nature, que l'on voit très clairement ici, où que ce soit les fruits de la nature ou les corps, sont associés. Les enfants... la prolifération au sens strict, proles ferere, c'est-à-dire porter des enfants. Proles, c'est-à-dire les enfants, porter des enfants. Et on dit prolétaire, normalement, c'est ceux qui ont des enfants, etc. Ceux qui produisent aussi. cette idée d'une générosité, y compris du corps humain, y compris de la terre, de la nature, des fruits, etc. Une abondance qui est aussi originelle. Hein. Et là, alors, dans la peinture de Jordan, il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide, très peu. Si votre regard va vers le ciel, il y a des nuages. Il y a très peu d'ouverture. On est toujours au premier plan. Et là encore, celle-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça, c'est encore avec. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? On va voir les Silènes et Pan. Hein, donc, j'avais déjà parlé de Pan quand on avait vu Titien l'année dernière, avec Apollon et Martias. Là, on voit qu'il y a des valeurs, y compris de sexualité, hein, d'animalité, qui sont étalées, répandues. Alors, chose bizarre en même temps, c'est un peintre catholique, mais il y a quelque chose qui, chez les protestants, est une. On dit que dans la culture protestante, il y a aussi la culture de la richesse. C'est qu'il est bien de s'enrichir. Ce n'est pas du tout un péché. Il faut au contraire croître et se multiplier. Et ça paraît comme une injonction biblique. Donc on n'est pas du tout dans une vision catholique, austérité, de pauvreté, de renoncement, etc. Là, vous avez une œuvre qui est à mi-chemin aussi entre deux cultures. Elle a ce côté, on va dire, des Flandres catholiques. Hein, dans ce cas-là, on va accepter la religion catholique et en même temps, on va accepter aussi la culture économique du protestantisme, dont on dit parfois, il y a des thèses là-dessus, qui disent que le protestantisme, c'est la première culture du capitalisme. C'est la première justification théorique et culturelle du capitalisme. Amasser, accumuler, prospérer, proliférer, enrichir, sans avoir de honte sur l'argent. C'est un truc tout bête, aux États-Unis, c'est ce qui domine, hein, la culture au niveau de l'argent, c'est un héritage de cette culture, on dirait, protestante. Hein. Donc, il y a le protestant, il y a une part d'austérité dans certains domaines, et puis dans d'autres. Alors voilà comment est-ce que le XVIIe siècle, c'est vraiment un brassage de cultures dont on voit des grandes différences. Et voilà encore du Jordaens. Hein, voilà du Jordaens, et vous avez toujours la cornemuse, une sorte de vocabulaire, et toujours à la même place, toujours celui qui vomit, toujours les enfants, ici, qui s'ennuient, là, qui sont assurés, qui soufflent. Alors là, évidemment, rappelez-vous, quand j'ai fait Apollon et Martias, on est dans les instruments à vent, et pas dans les instruments à cordes, parce que les instruments à vent, c'est le corps, c'est le souffle, et les instruments à cordes, c'est juste le doigt, c'est le feu pur, c'est plus aérien. Apollon, Martias, c'était aussi deux types d'instruments, à cordes, à vent, hein, aérien et venteux, etc. Et le souffle. Alors, donc voilà, ça c'était un petit... Alors, chez Rubens, c'est un peu différent, mais regardez les différences de corps entre Vénus de Rubens et Rome et les femmes chez Vermeer. Hein. Donc alors voilà, je déborde un petit peu, mais je vais commencer le sujet proprement dit. Mais on ne quitte pas la problématique, parce qu'aujourd'hui on va voir un drôle de truc. Un drôle de truc, mais j'ai découvert ça fait pas très longtemps. C'est... Parce que d'abord, c'était mystérieux. D'abord, c'est surtout cette peinture. Cette peinture, précisément, qui est là. Le sujet, c'est le roi Assa détruisant les idoles. Mais elle date du 17e siècle également, après fin du 17e siècle, et vous avez un temple qui s'écroule effectivement. Et le truc aussi qui est un peu bizarre, c'est l'attribution. Parce que moi je connaissais le nom de Desiderio, et puis ensuite j'ai vu que c'était attribué à François de Nomé, et puis ensuite c'était attribué à Didier Barra. Didier Barra et François de Nomé, en fait, sont des vrais peintres qui ont existé et qui sont tous les deux de Metz. Je ne sais pas si je vous souviens, Metz. En Lorraine aussi. Donc, vous avez effectivement deux artistes qui sont à peu près dans la même génération, mais qui se sont connus à Naples et qui sont effectivement lorrains. Et qui sont en plein XVIIe siècle. Et qui ont décidé de travailler ensemble et de s'inventer un pseudonyme. Donc, c'est une collaboration. Et Desiderio. C'est le nom, c'est un artiste qui n'existe pas. C'est un travail de duo, c'est pas du tout un couple, mais c'est un duo d'artistes qui se mettent d'accord pour peindre ensemble. Alors, Desiderio, D-E-S-I-D-E-R-I-O, et tous les phénomènes d'attribution un peu complexes. Mais, Ça, c'est un petit peu pour l'anecdote. Ceci, ça montre que là, vous avez des artistes qui mettent un peu de côté leur simple sensibilité pour mettre en avant plutôt des idées, une vision du monde. Hein, s'ils se mettent à deux, c'est pas alors que Jordan, si vous voulez faire du Jordan, c'est au contraire des affirmations d'individualité, de style personnel. Depuis la Renaissance, c'est vraiment quelque chose qui était un enjeu. Là, vous avez au contraire des artistes qui mettent de côté leur ego, quelque part, pour aller vers une sorte d'idéal de peinture. Alors, après, il y a aussi les sujets qu'ils vont traiter. Hein, l'idée d'un monde qui s'écroule. L'idée d'un monde qui s'écroule, et comme par hasard, vous avez ici l'idée d'une église qui s'écroule. Hein. Alors, le sujet de prétendu, c'est le roi détruisant les idoles qui seraient à droite, et un roi donc juif qui détruirait les idoles, les fausses idoles, et qui construirait le temple ici, mais vous avez quand même l'idée de l'iconoclasme, d'une église qui s'écroule, qui est partagée en deux, qui est divisée en deux. Or, on est précisément dans ce cas-là au XVIIe siècle, avec le schisme, avec le rapport aux images, avec le rapport aux icônes, et puis, ben, vous avez un grand désordre. Alors, la violence des guerres de religion est effroyable, 1572 de Saint-Barthélemy, mais dans l'Est, en Suisse et en Bavière, etc., c'est des massacres également effroyables, des deux côtés. Donc vous avez une véritable violence, vous avez une violence pour les artistes, parce que tout à coup le doute total sur est-ce qu'il est licite ou non de peindre, peindre quoi, peindre comment, peindre pour qui. Donc vous avez un bouleversement qui est réel, un monde qui s'écroule, hein, une civilisation de l'image et de la religion qui s'écroule. Donc cette peinture est emblématique, une lumière qui vient de ses eaux, fantastique, des petits personnages qui sont petits, un tout petit, qui semblent un peu presque rien, et puis un effet de dramatisation. Alors, on peut dire que ce qui va caractériser Desiderio, c'est ce style-là. Alors, je vous en montrerai plusieurs. Les savants réussissent à attribuer à Didier Barat ou à François Denomé. Mais c'est assez compliqué, il y a peu de traces. Ils ont surtout travaillé à Naples. Et les attributions, donc c'est un peu compliqué. Leurs œuvres sont éclatées aussi dans les collections. Puisque c'était aussi des artistes, on va dire, mineurs. Ils ne rentraient pas dans les grandes catégories. Mais je les ai présentés parce qu'il y a un côté de curiosité. Il y a aussi une dimension un peu fantastique qui est nouvelle, hein, d'imaginaire. Alors, l'intérêt aussi d'un monde qui s'écroule, on a vu, ça laisse la place à des nouveaux sujets, par exemple les scènes de genre en Hollande, avec Vermeer, mais ça laisse aussi la place à de l'imaginaire, à du fantastique, à des mondes, puisque de toute façon, il n'y a plus tellement de règles, eh bien, ça va aussi ouvrir. Et c'est un petit peu le cas ici. Alors, d'abord, c'est un travail aussi remarquable de perspective et de chaos, hein, puisque là, vous avez une perspective très rigoureuse, une science de l'architecture qui est remarquable, mais rappelez-vous qu'en Hollande, des églises se vident. Alors, les peintures de... je ne vais pas différencier Barat et Nommé, parce que c'est trop compliqué. Et puis souvent, je dis, sur un site, ça va être signé Barat, l'autre Nommé, l'autre Desiderio. Donc j'ai surtout privilégié la qualité, la chronologie et la qualité des images. Et puis aussi la thématique. La première thématique, et c'est là où c'est assez drôle, ce sont des... Je vais peut-être garder comme ça pour avoir les titres. Là, ce sont des peintures théoriquement religieuses. Là, c'est la montée au calvaire. La montée au calvaire, mais qui est discrète ici. Alors, on avait vu Bruegel, etc. Mais alors, Jésus, il faut le chercher, il est là, dans un petit coin. Mais ce que l'on voit surtout, c'est ces lumières de fin du monde. Hein. D'orage, de ciel sombre. Le ciel n'est plus le divin. Le ciel n'est plus le divin. Alors, Tintoret avait déjà inauguré des choses comme ça de maniérise. Et puis, vous avez des villes qui sont un peu pétrifiées, justement. Comme Sodome et Gomorre, par exemple. Hein, des lumières de fin du monde. Donc, on a l'impression assez exacte. Hein, alors il se trouve que là c'est Jérusalem, hein, avec les tours et dans le ciel de pénombre, des silhouettes miniatures qui semblent s'agiter un peu vainement dans un monde finissant. Alors on s'écarte de tout naturalisme au niveau des couleurs, mais c'est incroyable de vous dire que c'est contemporain de Vermeer, de Velázquez et de Jordaens. Donc, vous voyez aussi. Ça aussi, c'est riche, le XVIIe siècle, en fait, les crises font éclater les codes, et vous avez donc des artistes qui vont fouiller dans un petit coin. Alors, juste un truc, si vous voulez en voir une, regardez, c'est quasiment un chromatisme noir et blanc. Alors, Il y a aussi des supports, parfois ça peut être peint sur cuivre. Le fond, là, je crois que celle-ci est peinte sur cuivre. Et là encore, c'est une peinture théoriquement religieuse. Le sujet, c'est alors le baptême de Jean, une sur les Giovanni, mais alors, où est-il, à la limite, ça n'a pas tellement d'importance. Et vous avez des architectures aussi qui sont inventées. Là, des architectures qui sont fantastiques. Alors que, donc, c'est une architecture un peu de rêve. C'est pour ça, d'ailleurs, que Desiderio a été un peu retrouvé par les surréalistes beaucoup plus tard. Hein, parce que cette espèce de capacité à reconstituer des mondes est assez intéressante. Grâce à la perspective, c'est-à-dire que ces artistes se rendent compte que la perspective peut décrire le monde, mais elle peut aussi projeter un monde rêvé. Puisqu'on peut faire croire, grâce à la perspective, bien maîtrisée, grâce aussi à la maîtrise de la lumière, on peut faire exister des mondes impossibles. Qui sont effectivement une sorte de surcharge aussi de richesse, vous voyez, vraiment une surcharge de délires architecturaux classiques, baroques, alors on est à l'époque baroque un petit peu, mais en même temps pour rien. C'est aussi c'est comme des châteaux de sable, des pâtisseries, ils n'ont pas de teneur, ces bâtiments. Donc c'est aussi, hors le temple, la métaphore du temple, au sens large, depuis la Renaissance, c'était vraiment structure qui organisait la société. C'était le sommet, hein, la référence, la cité idéale, l'utilisation des mathématiques, de la géométrie, un lieu dédié à Dieu, et qui était un repère dans la cité. Et là, tout à coup, vous avez une sorte de prolifération de temples qui deviennent une sorte de fantômes. Ça aussi, c'est clair dans leur travail. Là, alors vous avez les enfers, alors là, il est plus à son aise, mais évidemment, là, dans des détails de Jérôme Bosch, on a dit ça, mais là, Jérôme Bosch, c'est une partie. Là, vous avez le sujet, effectivement, l'enfer, avec toujours des couleurs de terre, de lui, c'est que faut se lever de très bonne heure pour trouver du bleu et du vert chez nommé Desiderio. Normalement, aussi dans des couleurs souterraines. Hein, on a vu que Vulcain, hein, on a vu l'opposition avec Velázquez entre les couleurs de terre, sous terre, et les couleurs célestes. Mais là, très très clairement, le choix est fait. Alors, la chute, hein, les gouffres, les incendies, l'humanité réduite à une sorte de petite fourmilière, hein, et finalement, que ce soit dans les enfers ou à Jérusalem, on est à peu près dans le même type de lumière. Mais c'est un sens remarquable de l'espace, hein, des modelés, des dégradés. Alors, vous pouvez en trouver une à Paris, je ne sais plus exactement laquelle est à Paris. Elle est au musée des arts décoratifs Rue de Rivoli. Je vous incite, si vous ne connaissez pas le musée des arts décoratifs, il n'y a pas grand monde, et vous voyagez de siècle en siècle. Hein, c'est une des premières pièces, on dirait la chambre des époux Arnolfini, et puis dans une des chambres, des pièces du XVIIe siècle, je ne savais pas, bam, je crois qu'il y en a deux, nommées Desiderio. Et là, on est tranquille, il n'y a personne. C'est comme la plantelière, si c'est bien d'aller dans un musée où il n'y a personne. Alors, vous avez, on voit le sol aussi, le sol se dérobe, on n'est plus dans un sol homogène. On est dans le sol qui servait, on a vu par exemple chez Velázquez, chez Vermeer, le sol, la mise au carreau, c'est une manière d'être sur Terre, d'être bien quelque part sur Terre. Là, on est bien nulle part sur Terre. Ça se dérobe, ça s'en va, ça s'échappe, ça se creuse, c'est infini vers le haut, vers le bas, il n'y a pas de repos, il n'y a pas effectivement d'issue. Alors là, le sujet précisément, moi je les oublie, parce que même pour décoder ces œuvres, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Daniel dans la fosse aux lions, alors Daniel, alors la tradition biblique dit que Daniel dans la fosse aux lions, c'est une des références bibliques qui est la plus hallucinée. C'est une prémonition de l'Apocalypse. Les visions de Daniel dans la fosse aux lions, ça a souvent été pris en référence quand justement on voulait aller du côté des visions apocalyptiques de la Bible. Dans la Bible, vous avez des côtés un peu historiques, vous avez des sortes de formes morales ou religieuses, et puis vous avez des visions comme ça qui sont très archaïques, hein, qui sont dans une sorte de tradition sans doute extrêmement ancienne de magie, un petit peu, de visions qui sont très très éloignées en fait d'une spiritualité religieuse. Et c'est pas étonnant de retrouver les moments aussi cataclysmiques comme ça, un petit peu. Et là encore, une cité qui ne porte plus rien, des colonnes vides, des ruines, etc. Alors, faut savoir qu'ils sont lorrains, mais ils travaillent en Italie. C'est-à-dire qu'ils ont traversé toute l'Italie, et les ruines, les ruines de Rome, tout ça, c'est aussi des choses qui leur parlent. C'est l'idée qu'une civilisation aussi, au lieu, la Renaissance s'inspirait des ruines pour construire, mais eux, ça les amène à imaginer aussi qu'une civilisation peut se détruire. C'est que est-ce qu'on n'est pas à la fin aussi d'un monde qui est en train de s'écrouler aussi. Et donc, la poétique des ruines, alors, c'est bien avant le romantisme, on est 2 siècles avant le romantisme, mais il y a déjà une poétique des ruines et de mondes finissants, hein, et des mondes intérieurs. Là d'ailleurs, alors, certains, ça c'est derrière les ruines, avec Saint-Augustin et l'enfant. Une vie de Saint-Augustin, Saint-Augustin qui était donc un personnage de Romain, de l'Empire romain, et vous avez effectivement des ruines, et Saint-Augustin tout petit, hein, donc on est quand même très très loin de Saint-Augustin dans son cabinet de travail, c'est pas le Saint-Augustin inspiré, intellectuel, etc. On est au contraire dans un personnage seul. Alors, la solitude, c'est encore un sujet pré-romantique, hein, puisque se sentir seul au monde. On a vu que chez Vermeer, c'est être seul, mais être bien au monde, se trouver quelque part et finalement comprendre le monde et ne pas être perdu, même si on est dans un tout petit coin du monde. Et là, vous avez l'idée, au contraire, encore tout petit, perdu dans un monde trop vaste, et incompréhensible, et incommensurable, hein, jusque dans les cieux, etc. Alors, ceci dit, on comprend quand on voit ça, et on verra d'ailleurs d'autres visions, qu'il y a vraisemblablement quand même une étude. Alors par contre, je n'ai pas trouvé de dessin de carnet. Mais on peut très bien, on imagine qu'il n'a pas inventé ça du premier coup, et que là, il y a une étude, une observation de lumière et de volume qui fait aussi un effet de réel, c'est-à-dire qu'il y a une subtilité des ombres propres et des ombres portées sur les bâtiments qui sont assez remarquables, y compris les cieux d'orage.
Que signifie la différence de couleur entre celle qui a la...
Ah, le jaune et le...
Alors, puis le gris derrière.
Eh bien, les couleurs...
C'est un symbole.
Non, moi ce que je vois surtout, c'est on est entre l'incendie et la pétrification. La pétrification, ville de Sel, statue de Sel, Sodome, Gomorre, etc., qui sont justement comme des fantômes, et le jaune et l'ocre évoquent un peu la chaleur, l'incendie, etc. Parce que on trouvera peu de rouge, peu de vert et bleu, donc qui évoquent le ciel, l'herbe, etc. Par contre, et c'est même un jaune un peu défait, c'est un jaune presque, sauf ici aux enfers. Alors là, il y a un petit peu de rouge. Alors attendez, je suis obligé de regarder les titres, parce que c'est le jugement de Salomon. Ça, c'est le jugement de Salomon. Alors là encore, on est dans des moments de partage, de doute, d'inquiétude, de crise. Et à chaque fois, vous avez aussi cette grande solitude de Salomon, les mères des enfants, etc. Donc, dramatisation, situation dramatique, etc. Avec aussi des très belles, une belle place ici, et une part d'imaginaire, dans lesquels les corps se font de celles des statues, mais on n'est pas du tout dans des corps qui maîtrisent la situation. Or, il suffit d'aller, et vous voyez l'éventail, un peu la représentation des corps, même au XVIIe siècle. On regarde les corps de Jordaens, on regarde les corps de Vermeer, les corps de la tour, et donc, ces corps-là, à chaque fois, vous avez un rapport au monde qui est spécifique. Et toujours, corps et espace sont reliés. Est-ce qu'on le maîtrise? Est-ce qu'on le remplit? Est-ce qu'on s'agit? Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on est équilibré? Et vous avez, ou est-ce qu'on est là juste de passage, avec de la tour, et dès que le corps est de passage. Là, vous avez des petites silhouettes fragiles qui s'agitent, mais qui ne feront rien. Alors, attendez, ça c'est la décapitation de Jean-Baptiste, je crois. Oui, c'est ça, qui est ici dans un coin. Alors, vous avez aussi souvent une fascination pour la ruine, parce qu'en même temps, cette espèce de monde qui se défait, il est extraordinaire. Il est beau, il est fascinant, et à la limite, on s'en fiche un petit peu, la petite scène finalement, elle est presque moins intéressante que cette espèce d'enchantement merveilleux qui n'a plus de sens. Donc on est dans, là aussi, on est dans une sorte de perte de repère, puisque ce qui devrait faire du sens, c'est la petite zone qui est dans l'ombre et qui est toute petite, avec on voit Salomé qui vient récupérer la tête de Jean-Baptiste, le petit Jean-Baptiste est comme une sorte de petit truc en premier plan, et vous avez au contraire un bâtiment extraordinaire, magnifique, peut-être en ruine, mais fascinant, hein, de grandeur passée, mais qui ne dit rien. Alors, donc vous voyez, c'est pas, il n'y a pas une peinture, hein, y en a une multitude qui sont toujours corrélées. Alors attention, ça c'est, ça va être Iction, parce que je vais une roue cassée, c'est Martyr de, ah non, c'est Sainte-Catherine qui claque la roue. hein, qui fait éclater la roue qui devait la couper avant que je mette la roue là. Donc, encore une certaine. Alors là, il y a un peu plus de roue, j'ai une dimension un peu plus positive. Et toujours le même type d'architecture et d'extérieur. Alors, c'est l'extérieur en même temps qui sont entièrement architecturés. On ne voit pas d'arbres, pas de rivière, de rivage, on ne voit pas de plaine, on ne voit pas de choses. Poussin, c'était à la même époque, hein, Nicolas Poussin avec ses paysages structurés, construits. Donc là, on se promène dans des zones. Alors, là, le sujet, c'est les personnages, c'est des anges. Ah ben si, Sodome et Gomorre, bien sûr. Sodome et Gomorre, alors ici vous connaissez la légende, bon, le retournement, alors la femme ici de Lot est sans doute la petite silhouette qui est ici. Vous avez Lot avec des anges au lieu d'être avec ses filles, alors là, c'est pour ça que, est-ce que c'est vraiment Sodome et Gomorre, c'est ce qui était le titre du tableau, mais vous avez l'incendie, la fin d'un monde et la pétrification encore. Donc on trouve effectivement ce que je vous disais, soit l'incendie d'une part, soit la pétrification de la femme, c'est vrai. Quelque part, les centres ou la craie, on perd les couleurs aussi dans les deux cas. Les seuls qui restent, c'est ces couleurs chaudes. Alors là, exceptionnellement, il y a un élément de paysage, mais qui est à contre-jour, et donc vers lequel il va, théoriquement, il va vers le côté positif des choses, il quitte Sodome et Gomorre, mais en fait, on est dans l'ombre aussi. Donc, cette grande hésitation, ce grand doute est totalement emblématique. De ce XVIIe siècle qui est en train d'éclater totalement au niveau de ses repères, de ses références. Rappelez-vous les procès de Galilée, Copernic, Kepler, sur l'espace, le doute de Pascal, le doute de Descartes, le doute de Spinoza, donc vous avez aussi ça dans la philosophie, dans la cosmologie, et dans les sciences, et vous avez aussi, rappelez-vous, une question clé, c'est aussi est-ce que l'espace est fini ou infini ? Et s'il est infini, de quoi est-il plein? Et comment est-ce qu'on peut faire pour le remplir? D'un coup, vous avez aussi une angoisse, parce que l'espace devient un problème anxiogène. Tant que l'espace et la Terre étaient, on a vu que l'espace ptoléméen était fini, avec la sphère des étoiles fixes, bon, c'est pas on pouvait se balader, quoi. On pouvait se balader, y rêver un petit peu, il y avait une borne. Et puis c'était borné, c'était limité par la sphère des étoiles fixes. À partir du moment où on imagine qu'il est ouvert et qu'il n'a plus de centre, c'est ce que dit Pascal, hein, le centre est partout et la circonférence nulle part. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Comment est-ce qu'on y circule? Comment est-ce qu'on le pense? Comment est-ce qu'on occupe ce vide? Vous avez plein de théories au XVIIe siècle sur la nature de l'espace. Est-ce que l'air, c'est de la matière? Est-ce que le vide existe? Est-ce que c'est quoi l'éther? C'est quoi l'âme, les pensées? Donc on commence à interroger vraiment la quintessence, justement, cette espèce de cinquième élément compliqué. On essaie de comprendre cela et avec une multitude d'interrogations qui vont dans l'infiniment petit. Alors, les artistes, à leur manière, expriment le doute, l'incertitude, les espaces ouverts, le fait qu'on est perdu, qu'il n'y a plus de centre, parce que ça aussi c'est typique de Mons ou Desiderio. Alors oui, parfois on dit Mons ou Desiderio. M-O-N-S-U, donc Desiderio, Monsu Desiderio, c'est-à-dire Monsieur Desiderio. Monsieur Monsu, je crois que c'est un terme, si ce n'est pas du napolitain, Monsu Desiderio. Alors là, vous avez. C'est quoi? Yael, c'est ça. Comment ça s'appelle déjà? J'oublie toujours son nom. Jaël et Sisera. Jaël et Sisera, difficile, on a vu ça avec. Zut. Artemisia Gentileschi, là, avec cette femme qui enfonce un coin dans la tête d'un abuseur. Hein. Donc il va aussi choisir des scènes violentes, hein. Décapitation de Saint-Jean-Baptiste. Alors ça, on le trouve souvent au XVIIe siècle. On est dans des scènes aussi qui sont souvent de violence, hein, qui sont inspirées par ça. Là, vous avez un veau d'or, hein, vous avez toujours les incendies. Alors c'est très difficile à repérer, mais. C'est une organisation, à partir du moment où l'espace n'est plus centré, il y a une perspective, mais c'est aussi très libre. L'occupation de l'espace de la peinture est très libre et très intéressant, on le voit ici. Avec ici une référence quand même au culte païen, la colonne Trajane qu'on avait vue en début de programme, et puis vous avez ici des références à l'architecture gothique, renaissance, etc. Et puis des lumières incroyables qui traversent comme ça les rues, et les lumières latérales. qui éclaire cette scène aussi de violence, c'est cette femme qui tue dans son sommeil en enfonçant un coin dans la tempe du méchant. Alors là, c'est un truc tout bête, mais pour trouver les documents, c'est pas évident, parce que comme ce n'est pas des artistes très connus, ils ont des noms différents. Donc j'ai des documents parfois qui sont de mauvaise qualité, comme par exemple celui-ci, et encore un martyr de Saint-Ursule. Alors là, on était dans des. Et on est encore dans des thèmes chrétiens, théoriquement, et bibliques. Donc on voit qu'il s'inscrit quand même, il est pas à la tradition protestante, hein, il est lorrain, mais on est toujours dans les peintures religieuses, mais qui n'ont pas du tout de valeur, on va dire, didactique. On n'imagine pas un prêtre, un curé, s'appuyer sur cette peinture pour pouvoir construire un discours, au contraire. Parce qu'on a vraiment l'impression que tout se défait. Alors que la plupart des peintures religieuses, c'est quand même des commandes dans lesquelles vous pouvez construire un discours prosélyte, hein, pour justifier. De toute façon, c'était même la grande tradition chrétienne, catholique, c'était d'utiliser la peinture comme un langage, donc avec des clés, avec des codes de présentation, avec une lecture qui pouvait varier, mais qui correspondait à une vision chrétienne du monde. Là, ce n'est pas du tout le cas. Hein, c'est une sorte de, au contraire, ils vont piocher des sujets, parce que il y a un truc, c'est qu'au XVIIe siècle, il n'y a pas encore d'autonomie des genres de peinture. Il n'y a qu'en Hollande où on commence à faire peinture de paysage, peinture de genre et nature morte. Mais si vous voulez, en Italie, ça n'existe pas encore. En Italie, en France, quasiment pas. Donc si vous voulez, il faut justifier souvent, même par rapport au client, même le peintre lui-même, se justifie avec un sujet. Hein, un sujet. Alors là, c'est encore martyr d'un saint, alors on ne sait même pas de quel saint il s'agit, on sait à peine où il est, et on est toujours dans des architectures du même genre. Là, c'est saint Paul prêchant aux Athéniens. Alors là aussi, il y a une liberté, il n'y a aucune référence réelle à la véritable architecture. Ça n'a rien de grec, évidemment. On est plutôt dans du post-romain, baroque, dans une sorte d'éclectisme architectural total. Enfin, strictement rien. Et la scène, c'est Paul, ça pourrait être n'importe qui, les Athéniens n'ont rien d'Athénien, et c'est un petit groupe comme ça sur un décor, et il n'y a jamais personne dans les lointains. Alors encore un martyr, hein, je ne sais pas laquelle, et encore avec un monde qui s'écroule, hein, et des ruines fragiles. Donc on peut. Comment ? Alors là, il y a du rouge. Il y a du rouge. Alors le rouge, c'est effectivement, on dit que la gamme, ça va du jaune au rouge. Hein, c'est donc blanc, noir, gris, etc. et jaune, rouge. Évidemment, parce que les couleurs d'incendie, de sang, etc., de passion, ça c'est assez clair. C'est un truc tout bête, ça c'est un code couleur, pour dire, c'est un code couleur qu'on trouve, y compris, je ne sais pas, au Lucello, dans la bataille de San Romano, contre presque toujours, c'est, et même plus tard chez Goya, scène de Christ, c'est noir, blanc, jaune, rouge. Donc, regardez, partie des œuvres de Goya, noir, blanc, jaune, rouge, c'est ce qu'on trouve dans la bataille de San Romano. C'est vraiment, en général, une sorte d'harmonie colorée un petit peu intuitive, mais qui s'écarte évidemment de tout ce qui pourrait être naturaliste, des bleus, des verts, des jaunes pâles, etc. Donc on est vraiment dans des gammes que les artistes, sans que ça soit théorisé, comprennent bien. Mais ici, donc, le monde encore qui s'écroule. La cité d'une église qui s'écroule, ben c'est vraiment, et qui est partagée en deux, vous voyez, c'est quelque chose qu'on voyait déjà tout à l'heure, c'est très clairement une sorte de signe de l'Église catholique qui brise en deux avec le schisme protestant. Alors là, je crois qu'on arrive cette fois-ci à... Et pourquoi ça marche ? Ah voilà, petit truc. Là, est-ce que c'est la ville de Troyes ? Ah voilà, le sujet, je ne connais pas. Je n'ai pas vu de titre. Ah, ça c'est encore, alors. La fuite en Égypte. C'est toujours peinture religieuse. Fuite en Égypte. Alors, il est dit, au niveau des styles, que Didier Barra est plus précis, en général, et peut-être un peu plus naturaliste, et François Denomé est plus flou, plus confus, un peu plus radical dans ses contrastes. Donc là, on pourrait vraisemblablement voir plutôt du Didier Barra. Si, quand on voit les légères différences, c'est peut-être qu'il y a une qui pousse l'œuvre de Barra, et François Denomé serait plutôt dans l'espèce d'exagération, une liberté, y compris dans les volumes. Mais on a des thèmes qui sont, et des dispositions qui sont les mêmes, et des références qui sont les mêmes. Ce qui est assez drôle aussi, quand même, c'est la multiplication des sculptures, parce que ni en Italie ni en Grèce, vont trouver des ruines comme ça, autant surchargées. Alors, cette idée de reconstruction aussi des ruines, c'est assez drôle, puisque si vous êtes au milieu des ruines, il y a plein de fragments. Donc, si vous reconstruisez, vous pouvez imaginer que tout ça fonctionne ensemble. Donc, on reconstruit des bâtiments qui n'ont jamais existé avec des fragments. On est à tout ça sans doute. Il y a une part aussi d'imaginaire qui est assez claire. Et puis, alors, la fuite en Égypte ne correspond à rien. Et le paysage n'a rien à voir avec ni Jérusalem, ni l'Égypte. Alors, ça, c'est la tour de Babel. Là encore, c'est une tradition. Alors, attendez.
Il faut que je fasse attention.
Ah, ça, c'est là. Alors, celui-ci est peut-être aussi plus de Didier Barra. Parce que là, vous avez du bleu. Là, il y a quelque chose d'un peu plus ordonné. En général, Barra est moins tragique. Hein. Et il y a quelque chose de très, très beau au niveau de la perspective. Et des dessins d'architecture et les sculptures dans l'architecture. Tombeau de Salomon, encore une vision fantastique et rêvée. Alors, ça aussi, c'est le paradoxe de la perspective très bien maîtrisée par des artistes qui servait le principe même d'origine de la perspective. Si vous vous souvenez de Frangelico, Piero da Francesca, c'était d'établir un rapport entre le proche et le lointain, la terre et le ciel, et puis d'ordonner le monde de façon harmonieuse, pour s'y déplacer avec des repères et aller aux profondeurs. Les artistes ont été nourris de perspectives, et tout à coup, cette perspective qui ne dit plus rien. Donc vous avez en même temps des savoir-faire incroyables, puisqu'ils sont des virtuoses de la perspective et la représentation de l'espace, mais pour rien. C'est une sorte de technique qui finalement, de technicité, de savoir-faire qui est vain. Alors la vanité aussi, c'est quelque chose que l'on trouve au XVIIe siècle. C'est qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait là, etc. Et donc même la vanité de la représentation. Alors, on l'avait avec Delatour, puisque on peint quelque chose, mais en fait, la vérité, c'est dans le néant total. Et là, vous avez une perspective remarquablement maîtrisée, mais qui ne mène à rien. Donc, vous avez aussi même une vanité du métier de peintre, ici. Alors, l'autre grand sujet, voilà, maintenant, j'y suis, maintenant, c'est la chute de Troie. Et vous voyez qu'en fait, là encore, alors, le terme de la guerre de Troie, un grand thème, effectivement, on va le retrouver très souvent. Et c'est... Attendez, non, ça c'est pas ça. Ça c'est encore l'exécution d'un évêque. Oui, ça c'est le martyr de Saint-Janvier. Donc c'est pas la guerre de Troie. Moi j'ai la guerre de Troie. Non mais c'est... En fait, non, j'y arriverai. Bon ça, je vais pas vous dire à chaque fois. Là c'est Saint-Jérôme dans le désert, je crois que c'est là. Hein, avec incendie architecture.
Ouais.
Ouais. Et voilà. Voilà, là c'est l'incendie de Troie. L'incendie de Troie est quand même très... Alors les peintures ne sont pas très grandes, normalement. Par exemple, ceux qui ont au musée des Arts Déco, c'est à peu près comme ça. Ce n'est pas des grandes fresques. Hein. Souvent, elles comptaient son surpire, des petits tableaux, hein, qui ont une dimension de miniature. Et évidemment, bah, la chute de Troie, là aussi, incendie, guerre, fin d'un monde, violence. Et là, vous avez effectivement Aeneas en Chise, etc. Alors d'ailleurs, vous regardez ici ce qui est typique. C'est qu'autant l'architecture est maîtrisée, autant les corps sont très maladroits. C'est grossièrement anatomie et proportion. On voit que d'un point de vue, là, il n'y a aucune virtuosité, au contraire. C'est même très pâteau, hein, mal peint, disons-le franchement. Et la plupart du temps, ces artistes-là, de toute façon, ils ont un rapport au corps un peu compliqué, hein, parce qu'on n'est pas dans la sensualité, le corps ne vaut pas grand-chose, c'est plus le carnaval ici, on peut dire que c'est le contraire. Hein, le contraire de la joie, c'est le vide, c'est l'angoisse, c'est la mort, c'est un espace plein d'inquiétudes dans lequel on... Et même la perspective du cheval est totalement ratée.
Oui. Hein.
Par contre, ce qui est somptueux, c'est une description un peu presque topographique d'un espace profond, mais en plein dans les incendies et les fumées. Alors là, le travail remarquable des fumées, c'est clair. Alors, le thème des ruines, le thème de Troie, effectivement, m'a fait rêver aussi. On est dans le mythe, on est dans le passé. Alors, le thème de Troie, on va le trouver régulièrement traité. Là encore, la plupart du temps, c'est toujours le thème de Troie. On voit le cheval ici. Alors là, vraisemblablement, c'est peut-être plus nommé et l'autre était plus Barra. Et là encore, un dédale, c'est le cas de le dire, avec le cheval, la ruse, la mort, etc.